Dans plusieurs églises, il y a toutes sortes d'événements. J'aimerais faire référence à un pasteur qui s'appelle Chuck Smith. Lui, il est pasteur en Floride, dans certaines églises de Floride, mais aussi dans les Antilles anglaises. Et j'aimerais citer ce qu'il nous écrivait récemment. Alors que nous nous dirigeons directement vers la saison des fêtes d'automne, nous nous rappelons chaque jour pourquoi ce monde a besoin du retour du Christ. Je pense que ça rejoint la sermonnette, pourquoi cette haine dans les cœurs. C'est le temps de l'année, dit-il, où nous, dans l'Église, nous fixons nos pensées sur les choses d'en haut et non sur les choses de cette terre. Puisque tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, nous savons que l'aide pour ce monde ne peut venir que d'en haut. Bien sûr, il y a les talents humains, les talents physiques, il y a les autorités, il y a les fonctions, mais pour les dons les plus parfaits, ils sont accordés par Dieu le Père. Et l'homme a prouvé au cours des dernières 6000 années, que l'humanité est incapable d'apporter la paix durable sur cette terre. Alors, nous allons un peu explorer, si vous le permettez aujourd'hui, l'importance de préparer nos cœurs à autre chose, à vraiment quitter pendant quelques jours, quelques semaines, notre mode de pensée pour adopter davantage celui du monde à venir. Et je vais avoir un texte de base. Ce sera le livre du prophète Isaïe, le 59e chapitre. Nous allons voir quelques versets. Parfois, nous allons y brancher quelques autres passages. Isaïe 59. Si vous voulez mettre un signet là, ou enfin le marquer, tout dépend bien sûr de l'outil que vous utilisez. Nous allons commencer, si vous voulez, Isaïe 59, le verset 7, et voir d'autres versets à la suite. Ça décrit bien, je pense, la situation dont nous avons parlé dans la sermonnette. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Alors, ça a commencé avec quelques émotions, quelques amertumes hein, dans le cœur, mais ça a été entretenu. Et les gens, éventuellement, ont le goût de répandre le sang innocent. Bien sûr, pour eux, ce n'est pas un sang innocent, mais pour Dieu, c'est un sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, d'injustice. Le ravage, la ruine sont sur leur route. Une fois qu'ils ont passé, il y a du dégât. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. Alors, je continue avec une pensée de Chuck Smith. Il dit, nous regardons autour de nous et nous voyons de la violence et encore plus de violence dans ce monde prétendument civilisé. Chaque semaine, il semble y avoir un autre crime odieux qui vient surpasser le crime de la semaine précédente. Ce monde est en colère et quand cela se produit, le péché est à la porte. Ça commence, comme l'a dit tantôt dans la sermonnette, par quelques émotions négatives, mais ça grossit. Mais il y a quelqu'un qui, bien sûr, est là pour semer des émotions, de l'amertume, des sentiments d'injustice. Le diable a répandu sa colère sur cette planète. Il est en colère car son temps est court et il sait comment l'histoire se termine et cela le bouleverse. C'est une réalité derrière, hein, les rideaux. Cela le met en colère au point qu'il désire que les humains deviennent comme lui, en colère. Menteur et meurtrier dès le début, au point que Jésus-Christ a appelé les chefs religieux qui voulaient le tuer comme disciple de votre père, le diable. Récemment, dans la francophonie, en fait, dans toutes les églises par le monde, nous avons eu le message de John Elliott, le président, et ça s'intitulait Maîtriser notre futur. Et dans ce message, il nous a rappelé que nous, en tant que disciples de Jésus, nous avons une longueur d'avance sur nos concitoyens concernant la préparation et la vision vis-à-vis les événements catastrophiques qui vont venir. Et il a comparé cela à la situation de l'Église fondatrice, si vous voulez, de ce mouvement de la Nouvelle Alliance, où la plupart des disciples de Jésus avaient reçu l'avertissement que quand ils verraient Jérusalem encerclée par des armées, que ce serait le signal de quitter. Bien sûr, vous allez dire, mais comment aurait-il pu quitter s'il voyait Jérusalem encerclée? Mais il nous a expliqué qu'il y a eu justement cet encerclement, mais que les troupes romaines ont dû se retirer pendant quelque temps à cause d'un problème au niveau de Rome, au niveau de ce qui se passait à Rome. Alors, ceux qui écoutaient la prophétie de Jésus, l'avertissement de fuir, lorsque les troupes romaines se sont retirées, ils ont fui. Les autres ont pensé que le danger étant passé, on pouvait continuer à faire la vie quotidienne et même, je dirais, faire la vie religieuse prescrite par Dieu, du moins dans leur compréhension, et ils allaient aux fêtes et bien sûr, à la fête de la Pâque, c'est là que la plupart des citoyens ont été à nouveau encerclés par les armées romaines, mais cette fois, elles n'allaient pas se retirer tant que le temple n'allait pas être détruit et des milliers de personnes mises à mort. Et il a expliqué, bien sûr, la tragédie catastrophique de l'époque. Nous pouvons comprendre une partie des événements qui viennent, mais surtout savoir que Dieu va nous avertir, Dieu va nous faire comprendre et que nous ne devons pas avoir une anxiété extrême vis-à-vis les événements qui se préparent. Je continue dans le texte d'Ésaïe 59 au verset 9. Alors, pour les gens qui commettent ces choses-là. Prenons un pays comme le Canada, par exemple, qui a son taux d'injustice, qui a ses lois injustes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont de plus en plus dans le sentiment d'une oppression, le sentiment de ne pas savoir le futur. Pardon, le verset 9 dit ceci, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Autrement dit, on ne voit pas de fin à ces imbroglios. Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Bien sûr, nous, dans l'Église, nous devons voir au-delà de cette obscurité. Nous devons avoir confiance en notre Pardon. En notre Père qui a dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a cru bon de vous donner le royaume. C'est une décision que le Père a prise de donner à son petit troupeau le royaume. Nous allons descendre maintenant à Ésaïe 59, verset 19. Là, c'est une prophétie qui s'ouvre sur le monde à venir. On parle qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, depuis l'Ouest. Et pour l'instant, bien sûr, les nations de l'Ouest n'ont qu'un restant des brides de crainte de l'Éternel. Au Canada, il n'y a presque pas de résistance au mal. Si on se déplace un petit peu plus vers l'Est, bien sûr, la France, les pays d'Europe sont dans la confusion entre le wokisme, la mondialisation et les derniers souvenirs d'une identité propre à chacun de ces pays-là. La confusion aussi concernant l'héritage judéo-chrétien qui semble sécher depuis les racines comme le figuier maudit. La prophétie dit que on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Et elle ajoute, et sa gloire depuis le soleil levant. Si on se déplace, bien sûr, du côté des milliards d'habitants de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie et même vers les Indes, la plupart de ces peuples se croient libérés de toute nécessité, de toute présence d'un Dieu créateur. Tout est une question de chance, d'évolution. L'homme est sorti de la terre par le temps. Alors, bien sûr, on sait, nous, que le Dieu créateur appelle celui qui est athée un insensé. Donc, pourquoi? Parce que un jour, cet insensé découvrira en présence de son créateur qu'il sera jugé pour chaque parole vaine qu'il aura prononcée. Pas seulement chaque parole, mais vous savez que on a surpris une conversation entre Monsieur Poutine et Monsieur Xi Jinping de Chine, qui s'encourageaient mutuellement en disant, vous savez, grâce à la médecine aujourd'hui, grâce au prélèvement d'organes, nous avons des chances de vivre plus vieux. Et lorsqu'on sait ce qui se passe, par exemple, en Chine, j'ai malheureusement mis la main sur un témoignage d'un médecin chinois qui s'était fait tout simplement prendre dans l'exercice de son métier à faire un prélèvement de cœur sur une personne qui était encore consciente. Et ça l'a complètement bouleversé. Pourquoi? Parce que on assassine des gens là-bas pour prélever leurs organes et on ne prend même pas la peine de leur donner une anesthésie. Quelle abomination, frères et sœurs! Ça fait partie, bien sûr, des choses qui un jour seront du passé. Nous devons essayer de sortir et de s'orienter dans les jours qui viennent vers le monde à venir. Mais la parole de Dieu nous dit quand même la réalité. Au verset 19, dans la moitié, deuxième moitié, parle que quand l'ennemi viendra, et nous sommes conscients que ce monde est sous la puissance de l'ennemi, nous savons quel ravage il a causé et il cause encore à la race humaine. Jésus a comme résumé l'expérience religieuse humaine depuis la première famille dysfonctionnelle jusqu'au dernier meurtre mentionné dans les Saintes Écritures hébraïques. Et voyez comment il résume cette expérience où les gens ont l'impression, de rechercher la sagesse de Dieu, mais qui en fait ont le cœur corrompu. Alors, je vais citer pour vous ici à cet endroit, sans qu'on perde notre place, si vous voulez bien, dans Ésaïe 59. Je vais citer ici un passage auquel on peut faire référence, c'est selon Matthieu, c'est Jésus qui parle, selon Matthieu 23, versets 34 jusqu'à 36. Voici comment il voit cette expérience humaine. Et comment, dans un sens, Dieu a toujours confiance en son plan. Il dit, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. Je vais vous aider, je vous envoie des sages et des scribes. Réaction, beaucoup de reconnaissance. Non, vous tuerez et crucifierez les autres. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, dans vos lieux d'assemblée. Pourquoi? Parce que il y a cette corruption dans le cœur. Vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent, parce qu'il y a ce sang innocent. On l'a vu que les gens se hâtent à répandre le sang innocent. Le sang innocent répandu sur la terre, et là, voyez-vous, depuis quand? Depuis le sang d'Abel le juste, livre de Genèse, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, deuxième livre des Chroniques. Hein, c'est selon l'ordre des livres hébraïques que Jésus s'y cite le début et la fin. Le sang de Zacharie que vous avez tué entre le temple et l'autel. Verset 36, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Alors, c'est quand même une réalité. L'ennemi viendra. L'ennemi est en colère. L'ennemi sait qu'il a peu de temps. Alors, et peut-être pour même pour brancher cette prophétie sur les derniers temps, voyons que l'ennemi viendra comment? Isaïe 59, deuxième partie du verset 9, comme un fleuve. L'ennemi viendra comme un fleuve. Si nous connaissons la prophétie des temps de la fin, nous savons que cette expression se retrouve dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 15. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'époque où non seulement Satan est en colère, où la grande tribulation est déclenchée, mais où l'Église, la femme des Saintes Écritures est en fuite sous la protection divine. Elle est envoyée au désert, dans un lieu, dans son lieu. Et qu'est-ce qu'on lit dans Apocalypse 12? On n'a pas besoin de tourner là, mais je pense que ça vaut la peine de comparer les mots. De sa bouche, le serpent, il voit la femme en fuite. Alors, de sa bouche, c'est-à-dire par sa parole, le serpent, qui est bien sûr le diable et Satan, l'ennemi, lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Voyez-vous, l'ennemi arrive comme un fleuve. L'expression comme un fleuve, lorsqu'on compare un autre passage dans les Saintes Écritures, c'est ici la description d'une armée qui est envoyée par ordre de l'ennemi pour détruire la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais remarquez que, heureusement, au verset 16, la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alors, il y aura des événements dont nous sommes préparés d'avant, qui nous dit, nous ne devons pas avoir un niveau extrême d'anxiété. Nous savons d'avance. À cause de ça, frères et sœurs, nous pouvons tourner nos yeux vers même l'après cela, c'est-à-dire ce que nous allons célébrer dans les jours qui viennent. Fête des expiations, où justement l'ennemi est finalement mis état hors état de nuire. Et remarquez d'ailleurs, 59, Isaïe 59, le prochain verset, verset 20, un rédempteur, un goël, le racheteur, celui parmi la famille qui peut racheter l'humanité qui est dans un pétrin, dans une situation non voulue dans un certain sens. Un rédempteur viendra pour Sion. pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Alors, frères et sœurs, ça parle du peuple de Dieu, physique d'abord, les Israélites, Judas, bien sûr, qui s'est rassemblé dans les temps de la fin, dans un petit enclave en Terre Sainte. Ils se convertiront de leurs péchés, certains d'entre eux. Mais il y a aussi tous ceux qui sont greffés sur cet Israël-là, dans le plan de Dieu, sur le peuple physique de Dieu, parce que nous avons la même pensée, nous avons le même respect pour les Saintes Écritures, nous avons cette observance du septième jour, nous avons les fêtes de l'Éternel, nous avons l'ensemble des Écritures que nous essayons de suivre pas à pas, comme Dieu l'a commandé à son peuple depuis le début. Alors, cette intervention du Goël, du racheteur, se fera, on le sait, on l'a vu, pour la fête des trompettes, à la septième trompette. C'est ce que, bien sûr, nous avons pu couvrir mardi passé. Maintenant, continuons Ésaïe 59 au verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi. Alors ici, Dieu dit, je vais faire une alliance avec eux, avec les gens, avec les survivants. Mais déjà, mon esprit repose sur toi, mon enfant, sur toi que j'ai appelé en tant que prémisse, avant les autres. Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, toi enfin, tu pourras voir leur accomplissement, parce qu'elles ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Alors, autrement dit, tu vas entrer dans une ère où la vérité va être transmise de génération en génération, mais sans interruption. Combien d'entre nous, frères et sœurs, soyons francs, soyons honnêtes, combien d'entre nous avons vu l'interruption de cette transmission dans nos propres enfants? Nous avons transmis et pourtant ces paroles, dans certains cas, n'ont pas été suivies. On le fait du mieux de notre possibilité, mais il y a eu cette interruption. Je remercie Dieu que Dieu a préservé certaines familles dans l'Église qui sont à deux, trois, quatre générations. Mais nous savons très bien que c'est un signe du monde à venir, mais que la réalité présente dans l'ensemble est tout autre. C'est la vision du monde à venir qu'on pourra transmettre de génération en génération. Ce sera cette vision qui deviendra réalité. Maintenant, comme deuxième partie, nous avons vu cette importance dans lequel monde bouleversé nous sommes d'orienter nos pensées, mais on va voir maintenant pourquoi c'est nécessaire de prendre du recul. Premièrement, nous sommes appelés à une retraite fermée. J'utilise une expression qui est encore courante dans certains endroits, fermée dans le sens que exclusive. Une retraite où Dieu, un peu comme Jésus a dit, allons à l'écart et prenons du repos. Et c'est ça. Fermé parce que Dieu nous envoie dans le lieu qu'il a choisi. Voyons ensemble ce passage qu'on connaît très bien dans Deutéronome 16, 16. Vous savez, Dieu est un Dieu réaliste. Dieu a prévu depuis longtemps qu'il y aurait des fêtes de l'Éternel. En fait, le Genèse 1, verset 14, nous dit qu'il avait déjà organiser la lune et le soleil pour qu'ils soient fixés en sorte de donner des rendez-vous entre lui et la race humaine. C'est le mot qu'on retrouve dans Genèse 1,14, le même mot qui est tant fixé aussi dans les passages du Lévitique et de l'Exode. Mais voyons ici Deutéronome 16,16. Trois fois par année. En fait, le mot hébreu, on traduit, on pourrait dire assez littéralement, par trois coins de l'année. Aux trois coins de l'année. Nous, nous sommes habitués en hémisphère nord, et je dirais au Canada encore plus, à quatre saisons dans l'année. Mais ici, au niveau des fêtes bibliques, on parle des trois coins de l'année. Il s'agit bien sûr du début de l'année avec les fêtes que dans l'hémisphère nord on appelle les fêtes du printemps. Il y a la fête de la petite moisson de l'été qui s'annonce, hein, les prémices, la Pentecôte, et nous avons les fêtes de l'automne. Alors, dans ces trois coins-là, tous les mâles. Pourquoi? Parce que il pouvait arriver des occasions où les mères venaient d'accoucher, entreprendre le voyage pourrait être difficile, mais la responsabilité demeurait, peu importe la situation, sur les mâles. Tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu. Alors, c'est ce que nous allons faire, la plupart d'entre nous. Nous allons réserver ce temps que Dieu a réservé pour nous, c'est-à-dire nous allons accepter le temps que Dieu a réservé pour nous, pour cette retraite fermée, mais nous allons nous présenter dans le lieu qu'il choisira. Il, c'est qui? L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu va choisir le lieu. Et bien sûr, le lieu, c'est un peu aussi comme pour la femme, hein? La femme, elle a un lieu préparé. Ce n'est pas la femme dans un sens qui va décider aller dans le lieu de son choix. C'est le lieu que Dieu a préparé pour l'Église. L'importance, n'est-ce pas, des mots aussi. Alors, il rappelle bien sûr les trois coins de l'année. La fête des pains sans levain, la fête des semaines et finalement la période de la fête des tabernacles qui bien sûr est le gros de cette orientation à penser vers le monde à venir. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Et je pourrais ajouter, on ne paraîtra pas devant l'Éternel le cœur vide aussi. On aura un cœur préparé. Nous avons reçu depuis le début, je me souviens, mon début à moi, c'était en 1973. Je me souviens de ce lieu que Dieu avait choisi dans la région de Québec à l'époque. C'était dans la région de Lac-Beauport. Et je me souviens que j'étais d'accord pour suivre les instructions de Dieu, suivre le peuple de Dieu, être avec les gens. Pourquoi? Parce que c'était ainsi. C'était ce que Dieu me demandait. Donc, retraite fermée avec Dieu, là où Dieu veut que je sois. Deuxième élément. Nous nous présentons devant l'Éternel notre Dieu pour rechercher davantage les choses d'en haut. Monsieur Chuck Smith nous a comme sensibilisé à l'importance d'essayer de décrocher de la réalité des choses d'en bas pour nous rattacher aux choses d'en haut. Je vais lire avec vous, si vous voulez, la lettre aux Colossiens 3, la lettre aux Colossiens 3, versets 1 et 2. Nous vivons prophétiquement. Dieu déjà nous demande de imaginer, avec l'aide de l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est que de vivre une vie de résurrection. Parce que la réalité spirituelle est que, en sortant des eaux du baptême, Jésus-Christ nous a projetés dans une nouvelle vie. Il nous a donné d'ailleurs la présence de son esprit qui est, vous le savez, un esprit éternel. Vous allez dire, comment puis-je faire pour penser les choses de Dieu alors que je suis si limité? La réponse, parce que Dieu nous a donné un esprit éternel. C'est-à-dire que l'esprit qui est joint à notre esprit, frère, essayez de saisir l'ampleur de cette réalité. L'esprit qui est joint à notre esprit est la pensée de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, attaché à nous, et cette puissance-là a toujours existé. Elle peut donc, cette présence de Dieu en nous, nous enseigner des choses de toute éternité. Pourquoi elle doit le faire? Parce que elle doit nous préparer à cette éternité. Alors, c'est ce qu'il est dit ici. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si nous sommes sortis des eaux du baptême, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Voilà pourquoi l'importance de la prière, d'élever nos esprits pour percevoir le Christ assis à la droite de son Père. Affectionnez-vous. Il faut que ce soit plus qu'intellectuel. Il faut que ce soit avec toute notre être, tout notre cœur, toute notre pensée, avec affection. Moi, j'utilise ici le mot de Louis II. Je l'aime, ok? J'ai de l'affection pour cette traduction. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Autrement dit, c'est une question de priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre soin de nos êtres chers, mais nous sommes à la période où nous orientons vers les choses d'en haut. Alors, c'est raison plus pour se préparer au monde à venir. Mais nous avons aussi besoin de laisser notre Père céleste nous communiquer sa vision. C'est mon troisième point. Laisser notre Père céleste nous donner sa vision. L'écriture que j'ai choisie pour ce passage, c'est la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 13. Regardons nos prédécesseurs, ceux dont nous voyons les noms inscrits dans le livre de vie, déjà dans les Saintes Écritures. En parlant d'Abraham, Isaac, Jacob, Rahab, tous les autres, c'est dans la foi, c'est-à-dire dans un climat de confiance, qu'ils sont tous morts. Ouais, leur vie, à un moment donné, est arrivée à un moment d'immobilisation, sans avoir obtenu les choses promises. Donc, ils les ont pas encore reçues. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Autrement dit, leur vie quotidienne, c'était une vie de passage, ils le savaient. Ils savaient qu'ils ne devaient pas s'attarder trop sur les besoins quotidiens, mais vraiment de regarder aux choses promises qu'ils ont vues, c'est-à-dire ils ont eu comme une vision. Je vais traduire ici, si vous le permettez, les paroles d'un chant qui est sorti un peu avant mon appel en 1970. Ça s'intitule There is a new world coming, c'est-à-dire un monde nouveau s'en vient. C'est écrit par Barry Mann et Cynthia Well. Ça a été interprété principalement par Mama Cass Elliot. Je vais le traduire. Il y a un nouveau monde qui arrive. Et c'est juste au tourne. Le monde présent touche à sa fin. Il y a une nouvelle voix qui vous appelle. Vous pouvez l'entendre si vous portez attention. Et elle devient plus forte. Avec chaque jour qui passe, il y a un tout nouveau matin qui se lève clair, doux et libre. Il y a un nouveau jour qui se lève, qui appartient à toi et à moi. Oui, un nouveau monde arrive, celui dont nous avons eu la vision. Et cette vision a été donnée à travers l'histoire à ceux que Dieu a choisis et qui l'ont suivi. Celui dont nous avons eu la vision de voir venir en paix, venir dans la joie, venir dans l'amour. Oui, un nouveau monde arrive, celui dont nous avons eu la vision. Donc, laissez Dieu nous transmettre sa vision dans ces jours qui nous aident à avoir un avant-goût du monde à venir. Pourquoi aussi avoir cet avant-goût du monde à venir? Point 4. Pour nous concentrer sur ce qui est noble. Je vais choisir la traduction du Semeur pour la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. Un passage que je pense nous édifie à chaque fois que nous le lisons. J'aime cette traduction parce que ça nous stimule, je pense. Vous savez, monsieur Elliott, justement, dans sa lettre récente que j'ai envoyée, du moins pour le Québec, dans le bulletin du pasteur, explique comme quoi nous pouvons nous attendre à un festin de choses, de nourriture physique et spirituelle. Ici, nous avons déjà dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, l'importance de cette nourriture spirituelle. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées. C'est bien traduit, je pense. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, tout ce qui est juste. Les gens vont dire, ben moi j'écoute les nouvelles parce qu'au moins c'est vrai. Je dirais, oui, les faits sont vrais la plupart du temps. Mais souvent, et là, ce sont des choses vraies, tristement vraies, catastrophiquement vraies. Alors, il faut ajouter tous les autres adjectifs. Il faut que ça soit vrai, mais aussi que ça soit noble, que ce soit juste, que ce soit pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Alors, ces choses-là peuvent se vivre en famille, peuvent se vivre dans le quotidien de la fête des tabernacles. Encore faut-il que notre cœur soit nettoyé nous-mêmes. Justement, comme l'a dit Philippe, de ces pensées négatives que nous pouvons avoir. Ces pensées négatives qui font que lorsque quelqu'un me dit quelque chose, au lieu d'avoir la paix, au lieu de lui rendre la paix, la joie, j'ai une réaction. Alors, c'est sûr que c'est que certaines choses dans mon cœur ne sont pas nobles, ne sont pas vertueuses. J'ai besoin d'être préparé par Dieu. Je suis en cheminement. Alors, nous sommes encouragés par cette écriture à décrocher de nos informations quotidiennes. Mais on parle souvent des nouvelles. Moi, j'appelle ça des vieilleries. C'est souvent des vieilleries, hein? Pour nous concentrer sur les nouvelles du Milan. Nous allons décrocher finalement pour recevoir l'esprit de paix et de joie. L'un des titres de notre Sauveur est Prince de la paix. Lui seul sera capable d'apporter la paix sur la terre. Lui seul peut nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Je ne vais pas m'y reporter, mais je vais citer pour vous Ésaïe 33. C'est ce qui se passe présentement. Vous savez, on espérait peut-être que la paix se fasse plus rapidement en Ukraine, ou que ça se fasse entre Israël et le peuple palestinien. Je parle bien du peuple palestinien parce que c'est sûr qu'avec les dirigeants palestiniens, c'est presque impossible parce qu'ils veulent l'extinction de leurs voisins. Mais voici ce que dit Ésaïe. Voici les héros poussent des cris au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. L'être humain essaie de faire la paix. Il y a des gens sincères qui veulent cette paix. Mais ça ne fonctionne pas. Les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. L'ennemi invisible en arrière est celui qui doit être enlevé pour qu'il y ait une paix durable. Anticipons donc ce temps de paix divine, ce temps réservé pour les enfants de Dieu, les enfants de la résurrection, les enfants du monde à venir. Les enfants du monde à venir composeront de nouvelles louanges à Dieu, adapteront et amélioreront les meilleures chansons. Une autre chanson que j'aimerais partager avec vous a été composée la même année. Elle a été composée dans notre Québec. Elle est donc francophone. Elle s'intitule Les enfants de l'avenir, écrite par le Québécois Stéphane Venn et interprétée pour la première fois par Isabelle Pierre. Je vais modifier un peu les paroles parce que, bien sûr, nous avons une meilleure vision que Stéphane Venn. Nous avons une voix, espérons, spirituelle, reconnaissante. Les enfants de l'avenir vont savoir comment s'envoler dans l'espace. Pourquoi? Parce qu'ils monteront dans les airs au retour du Christ, libérés de la gravité. Les enfants de l'avenir se feront des jardins dans le ciel. En fait, ils feront de la terre un paradis du royaume des cieux. Les enfants de l'avenir vont savoir parler la langue des poètes. En fait, ils auront un langage pur, le langage du grand poète. Le mot poète est un mot grec qui veut dire tout simplement celui qui crée, celui qui fait, le grand fabricant de tout, le grand poète. Les enfants de l'avenir donneront l'amour divin à l'infini. Ils seront reconnus à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres et vont le transmettre partout. Le chant continue en disant, ils seront heureux, ils seront heureux, ils auront chacun leur soleil dans les yeux. La Bible appelle Jésus-Christ le soleil de justice. Et il est décrit dans l'Apocalypse comme ayant quoi dans les yeux? Des flammes de feu. La parole de Dieu nous dit également que les enfants de Dieu seront tels qu'il est et qu'ils le verront tel qu'il est. Alors ce seront aussi des regards de feu. Ils auront leur soleil dans les yeux. Ils seront heureux, ils seront heureux. Envolés dans leur voyage merveilleux. Et regardez cette phrase, je pense qu'elle n'a besoin d'aucune modification. Les enfants de l'avenir, les enfants du monde à venir, vont savoir comment faire une paix qui dure. Les enfants de l'avenir se feront des chansons de couleurs. Les enfants de l'avenir vont savoir naviguer au feu planétaire. Ils se déplaceront comme des êtres spirituels. Les enfants de l'avenir régneront par la lumière, ils seront heureux, ils seront heureux. Pouvons-nous nous concentrer davantage sur le monde futur que sur le monde existant? Nous le pouvons, frères et sœurs, lorsque nous observons les jours saints de l'automne physiquement et spirituellement. Nous voulons, frères et sœurs, les observer dans le temps de Dieu, le 14e jour au 21e de la 7e lune, et dans l'espace de Dieu, dans le lieu choisi de Dieu. Je conclue avec cette phrase de Chuck Smith. Nos esprits et nos cœurs doivent être concentrés sur la réponse au problème et non sur le problème. C'est le moment de l'année où le peuple de Dieu fait face à des épreuves et à des problèmes qui semblent toujours surgir à cette période de l'année. Ces tests veulent détourner notre attention des choses de Dieu. Le désir de Satan est de nous faire perdre l'espoir et la vision d'un monde nouveau et meilleur à venir. Profitons de notre sabbat, car c'est aussi une image d'un sabbat de 1000 ans qui se dirige vers nous. Frères et sœurs, préparons nos cœurs au monde à venir.